Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin.
Pour ce 13e et dernier cours de l'année, nous allons rejoindre la vallée du Tigre avec les villes d'Achour et Ekallatoum. Dans l'état actuel des publications, la ville d'Achour est mentionnée 51 fois dans les archives de Marie et Ekallatoum 110 fois. À titre de comparaison, Shubat Enlil est mentionné 103 fois, Andarig 123, Babylone 322, Eshnouna 264, Melarsa seulement 32. Donc ces chiffres montrent que les deux villes auxquelles on va s'intéresser ne sont pas négligeables. Achour se situe à 100 km au sud de Mossoul, donc de Ninive. La ville porte le nom de son dieu. En fait, Achour est au départ une montagne divinisée, le promontoire rocheux qui domine la vallée du Tigre à cet endroit. Un bas-relief a été découvert dans une cour du temple d'Achour, à l'intérieur d'un puits. Il date sans doute de la première moitié du deuxième millénaire. Et on y voit un dieu montagne, identifié comme tel par les sortes d'écailles qui recouvre sa robe, mais aussi son bonnet, motif par lequel la montagne est symboliquement représentée dans l'art mésopotamien. Le dieu tient en main deux branches qui se terminent par des sortes de bourgeons que broutent des capridés. Et de part et d'autre, deux petites figures portent des vases aux eaux jaillissantes. Eh bien, il est fort possible qu'il s'agisse du dieu Achour lui-même. Et la chose est sûre, en tout cas, pour le sceau de la ville d'Achour, dont on a retrouvé une empreinte sur une étiquette. On y voit une divinité protectrice debout en prière, devant une montagne, d'où émerge une tête de bovidé. Et la légende indique qu'il s'agit du sceau du dieu Achour, relatif à la taxe Nisratum, appartenant au Bit Alim, la maison de la ville, autrement dit la municipalité. Donc, le fait qu'Achour était une montagne divinisée n'est plus sujet au doute, et nous avons le même nom pour la montagne divinisée, la ville qui s'y est installée, et à partir du XIVe siècle, mais seulement à partir de ce moment-là, un pays qui s'est constitué à partir de là. Sur ce promontoire dominant le Tigre, donc, s'est installée une ville qui a grandi au troisième millénaire et a développé au début du deuxième millénaire un réseau commercial remarquable. La branche la mieux connue, c'est celle qui relie Achour au cœur de l'Anatolie. Le plus important comptoir commercial des Assyriens étant installé à Kanesh, aujourd'hui Kultepe. La ville d'Achour était alors une petite cité-état, avec à sa tête un roi qui se disait seulement représentant Ishiakoum du dieu Achour et qui était par ailleurs désigné avec le titre de prince, Roubaoum, mais pas avec le titre de roi. Au passage, on ne saurait assez insister sur le fait qu'aux alentours de 2000, la situation était exactement la même à Eshnouna, où ceux que nous nommons roi n'avaient que le titre de représentant, Ishiakoum, du dieu local, Tishpak, et le titre de prince. Voilà encore un cas où le fait que les études paléo-assyriennes soient trop souvent coupées des études paléo-babyloniennes pour des raisons de langue et d'écriture est certainement préjudiciable. À Achour, on a donc affaire à une monarchie au pouvoir limité par une assemblée très puissante, des marchands dirigeant de fait la politique de leur ville. On aura l'occasion de s'en rendre compte. Donc nous allons commencer par faire l'histoire des recherches de terrain. Nous verrons ensuite pourquoi il faut parler de Samsiadou, roi d'Ekallatoum, et non de Shamshi-Adad Ier, roi assyrien, comme on le fait encore dans trop d'ouvrages. Et nous verrons ensuite quelques dossiers relatifs à Achour et Ekallatoum du temps du fils de Samsiadou, Ishmedagan. Je commencerai par dresser un historique des recherches sur ces deux villes. Pour Achour, ce sera l'histoire des fouilles qui remonte à plus de deux siècles. Le site a d'abord été identifié par l'anglais Claude Rich en 1821 Il a été visité et exploré par Layard en 1847 et de 1850 à 1851 avec Rassam. Il y a une anecdote qui est assez peu connue. Victor Place s'y rendit en 1852. Il avait en effet reçu instruction de l'Académie, non seulement de poursuivre les travaux de Botta à Khorsabad, mais aussi de s'intéresser à d'autres sites de la région, et en particulier à Kalat Sherkat, qui est le nom moderne d'Achour. Place, après avoir ouvert quelques tranchées avec une quarantaine d'ouvriers, demanda la protection du cheikh local. Mais celui-ci crut bon de jouer de la rivalité qui existait alors entre Français et Anglais, et il fit courir le bruit que Place lui avait demandé de dépouiller Rassam et au besoin de l'assassiner. Heureusement, Rawlinson arriva sur les lieux et calma le jeu, ce qui soulagea Place, mais c'est finalement Rassam qui reprit les fouilles à Kalat Sherkat en 1853, et c'est ainsi que fut découvert le fameux prisme de Teglat-Phalazar Ier, transporté au British Museum, et qui donna lieu au célèbre déchiffrement parallèle de quatre savants en 1857. Plus tard encore, George Smith, dans le cadre de sa première campagne de fouilles à Ninive, fit quelques travaux à Kalat Sherkat en 1873. 30 ans plus tard, les Allemands s'intéressèrent au site pour une fouille qui allait cette fois durer une douzaine d'années. Le contexte de cette entreprise, c'est le moment où l'empereur Guillaume II, après avoir unifié l'Allemagne, s'est lancé dans une active politique internationale et, pour ce qui nous intéresse, bien sûr, ce sont ses relations avec l'Empire ottoman. On connaît le voyage qu'il fit en Orient en 1898, qui le mena notamment à Damas et à Jérusalem. Dans la foulée, si je puis dire, la Deutsche Orientgesellschaft, donc la Société orientale allemande, a été créée et la fouille de Babylone a été lancée par Robert Koldewey. Les deux événements ont été commémorés en mars 1998, donnant naissance à deux ouvrages collectifs, l'un sur les activités de la DOG, comme on dit à l'allemande, pendant un siècle, et l'autre sur Babylone. Mais au bout de 4 années de fouilles intensives à Babylone, seuls des niveaux très tardifs avaient été dégagés. Et il était clair que pour fouiller des niveaux plus anciens, eh bien, il faudrait choisir un autre site. Koldewey commença par mener une campagne à Farah, l'antique Churupak, en 1902-1903, où il découvrit les fameuses tablettes proto-dynastiques. Et puis, il fouilla également à Abu Hattab, où il découvrit l'antique Kisoura. Finalement, il décida d'entreprendre des recherches au nord, sur le site de la capitale assyrienne. Il débuta en 1903, mais il retourna rapidement à Babylone, passant la main à celui qui avait été jusqu'alors son bras droit, c'est-à-dire Walter André. Et donc, c'est l'occasion de dresser brièvement le portrait de celui-ci. En 1903, il n'était âgé que de 28 ans et il avait, comme Koldewey, une formation d'architecte. Il mena l'entreprise avec une rigueur remarquable jusqu'à la fin de la mission en 1914. C'était aussi un artiste et un livre de reproduction de ses peintures a été publié en 1989. Il a écrit ses souvenirs, qui ont été publiés après sa mort, mais il est surtout célèbre pour son livre de synthèse sur les fouilles d'Achour, qui a été réédité en 1977 avec des compléments par Barthel Rouda. J'ai trouvé dans les archives de Gertrude Bell, qui sont en ligne, cette photo d'une visite qu'elle effectua à Achour en avril 1911. Elle est, comme il se doit, à la droite d'André. Alors, vous pourriez vous étonner du luxe de cette salle à manger, mais il faut savoir que les Allemands, aussi bien à Achour qu'à Babylone d'ailleurs, fouillaient à l'année, excepté une période de congé durant les mois d'été les plus chauds. Et donc, il fallait quand même disposer d'un minimum de confort. Une fois rentré en Allemagne au début de la Première Guerre mondiale, André dut attendre 1926 avant de pouvoir récupérer les caisses contenant les objets qu'il avait découverts et qui étaient destinés au musée de Berlin, parce que le bateau sur lequel se trouvaient ces caisses avait été arraisonné au Portugal. On oublie souvent que c'est à André et pas à Koldewey, mort en 1925, que l'on doit, dans le musée de Berlin, la fameuse reconstitution de la voie processionnelle et de la porte d'Ishtar à Babylone. Et à toutes les bonnes âmes qui crient au scandale devant la soi-disant spoliation des Irakiens, il faut montrer cette photo. Il n'y a eu nullement démontage sur place d'un monument pour le transporter au musée de Berlin, mais un travail de puzzle incroyable à partir de milliers et de milliers de fragments de briques. Le malheureux André a eu la douleur de voir en 1946 les Russes s'emparer des richesses du musée et il mourut juste avant qu'elles soient restituées en 1958. Le centenaire du début de la fouille d'Achour a été célébré par un colloque à Berlin en février 2004 qui a donné lieu à un ouvrage collectif. Un des nombreux mérites d'André a été une excellente organisation des publications. Elles sont toutes parues dans la collection connue sous le sigle de WVDOG, donc les contributions scientifiques de la Société orientale allemande. On a de nombreux volumes relatifs à l'archéologie que lui-même ou ses collaborateurs ont publiés, et aussi des séries de publications d'épigraphistes qui a commencé avant même l'arrêt des travaux sur le terrain. Alors, il est vrai qu'aucun épigraphiste n'a été présent sur le terrain, ce qui peut paraître regrettable, mais plusieurs séries de volumes ont paru sous le titre « Keilschrifttexte aus Achour », « Texte cunéiforme d'Achour ». Selon la coutume de l'époque, c'était des planches de copie accompagnées de catalogues et d'index, les éditions étant faites dans des ouvrages ou articles dispersés. Voici la liste de ces volumes pour une série qui s'est arrêtée avec la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a eu ensuite des volumes consacrés aux textes littéraires et médicaux qui sont parus dans d'autres collections. Mais il restait beaucoup d'inédits. Le problème, c'est que Berlin, après la Seconde Guerre mondiale, était coupé en deux, et ça n'a pas permis que les publications se poursuivent de manière coordonnée, parce que le siège de la DOG se trouvait à Berlin-Ouest, Charlottenburg, tandis que le musée se trouvait à Berlin-Est. Et il a fallu attendre la chute du mur et la réunification de l'Allemagne pour que les publications reprennent à grande échelle. Un projet a été dirigé par Johannes Renger de 1997 à 2010 qui avait quatre objectifs. Publier ce que les Allemands appellent les Kleinfunde, les petits objets. Réexaminer l'architecture monumentale en resituant le contexte archéologique de tous les objets découverts dans les bâtiments dont, jusqu'à présent, seule l'architecture avait été publiée. Publier les caveaux funéraires et les tombes qui étaient restés inédits, et il y en avait plus de 1000. Et enfin, publier les textes juridiques et administratifs restés inédits depuis l'époque paléo-acadienne jusqu'à l'époque néo-assyrienne. Il y a eu au total 39 volumes et de nombreux articles qui sont issus de cette entreprise qui était financée par la DFG, la Deutsche Forschung Gemeinschaft, l'équivalent de notre ANR, mais je dois dire qui dispose de crédits nettement plus importants. Ce projet a été relayé par un autre qui a pris naissance lorsque Stefan Maul a reçu le prestigieux prix Leibniz en 1997, peu après être devenu professeur à l'université de Heidelberg. Il s'agissait de publier cette fois tous les textes littéraires restés inédits. Cela s'est fait dans une nouvelle série appelée KAL, donc les Keilschrifttexte aus Achour Literarischen Inhalts, les textes cunéiformes d'Achour de contenu littéraire. Il y a au total 17 volumes qui sont parus jusqu'à présent depuis 2007, mais presque tout ceci concerne des périodes postérieures à celles qui nous intéressent. Revenons aux travaux de terrain. En 1903, André a commencé par établir le tracé de la muraille. Sa partie méridionale qui entoure la ville basse avait été construite par Pouzour-Achour III vers 1500. Ensuite, André a fouillé les principaux monuments du nord du site, donc de l'acropole, et c'est là notamment qu'il a dégagé le temple d'Achour, où il put retrouver un plan de l'époque de Samsiadou, sur lequel nous reviendrons, et puis il fouilla également ce qu'on appelle le Vieux Palais. Mais ces deux bâtiments n'ont livré aucune archive du début du deuxième millénaire. Et dans la ville basse, André a décidé de reprendre la technique des Zurgraben, des tranchées d'exploration, qui avaient déjà été expérimentées aussi bien à Farah que à Abu Hattab. Donc, ça consistait à ouvrir des tranchées de 10 mètres de large tous les 100 mètres, et on les voit encore très bien de nos jours. L'orthophoto que vous avez à l'écran a été prise tout récemment. Et, bien entendu, lorsqu'on trouvait quelque chose de particulièrement intéressant, les fouilleurs ne s'interdisaient pas d'élargir à l'endroit où se trouvait ce bâtiment. Par la suite, la fouille d'Achour a repris à plusieurs moments. D'abord, il y a eu des fouilles irakiennes dans les années 1970-80, mais qui n'ont pas donné beaucoup de publications. Les Allemands sont revenus d'abord en 1988-89 avec Reinhard Dittmann, puis en 1990 avec Bartel Ruda, et ensuite, eh bien, vous imaginez ce qui s'est passé, interruption à cause de la guerre du Golfe. Il y a eu ensuite des fouilles de 1999 à 2002. Les Irakiens ont notamment élargi la fouille de la maison de l'exorciste, qui a livré des tablettes supplémentaires. Il y a eu deux campagnes qui ont été menées par Peter Miglus pour prolonger le travail de Ruda sur un quartier d'habitation dans la partie occidentale de la ville basse, et le résultat des trois campagnes 1990, 2000 et 2001 a été l'objet d'un projet intitulé Achour West, donc Achour West, dirigé à Heidelberg par Peter Miglus, qui a abouti au volume VVDOG 152 en 2016. Et les textes des archives alors découvertes, celles de Douri Achour d'un côté, d'une famille égyptienne de l'autre, eh bien, ont été publiés par Karen Radner et sont désormais accessibles en ligne sur le site ATAE. À partir de 2023, de nouvelles fouilles ont eu lieu sous la direction de Karen Radner et Janosha Krepner. Cette reprise des fouilles a été rendue possible par le financement considérable obtenu par Karen Radner en 2022, qui, elle aussi, a reçu le très prestigieux prix Leibniz. Une somme de 2,5 millions d'euros finance des recherches pour 7 ans, donc jusqu'en 2030. Il y a eu trois campagnes de 2023 à 2025, et les deux premières ont déjà donné lieu à des ouvrages collectifs. Alors l'accent est mis sur la ville basse parce qu'elle est menacée par la construction d'un barrage dont le lac pourrait inonder une partie du site. Pour l'instant, la construction de ce barrage a été arrêtée. On ne peut espérer que ça ne reprenne jamais parce que c'est discutable du point de vue de l'environnement et du point de vue de l'archéologie, évidemment, ce serait une catastrophe. L'avantage de ces fouilles récentes, c'est que pour la première fois, sur le site d'Achour, toutes les techniques modernes de l'archéologie ont été utilisées, prospection géomagnétique, recours aux drones, paléobotanique, paléozoologie, etc. Le paradoxe, c'est que la fortune postérieure de la ville d'Achour nous empêche de bien connaître l'aspect qu'elle avait au début du deuxième millénaire. Aucune maison d'époque paléo-assyrienne n'a pu être dégagée dans les tranchées de la ville basse parce que le niveau correspondant se trouve trop en profondeur sous les couches parthes, néo-assyriennes et médio-assyriennes. Et c'est la raison pour laquelle les fouilles de Kültepe, l'ancienne Kanèche, au cœur de l'Anatolie, sont si importantes. On y a en effet découvert dans la ville basse de nombreuses maisons occupées par des marchands assyriens dont les archives ont livré jusqu'à présent environ 23 000 tablettes, dont un quart seulement a été publié. Une bonne partie des lettres, mais aussi des contrats qu'on y a retrouvés, ont en fait été rédigés à Aşur et transportés jusque au cœur de la Turquie actuelle. Nous passons maintenant à Ekallatum, avec une problématique complètement différente, puisqu'il s'agit avant tout de savoir où se trouvait cette ville, bien connue par les textes, qui date aussi bien du début du deuxième millénaire que jusqu'à l'époque néo-assyrienne. On peut résumer la recherche en trois temps. Première étape, on localisait Ekallatum au sud d'Aşur, à cause de la liste royale assyrienne, comme on le verra dans un instant. Celle-ci indique que Samsiadou, venant de Babylonie, s'empare d'Ekallatum et, trois ans plus tard, d'Aşur. Et donc, la logique géographique semblait imposer qu'Ekallatum soit situé entre Babylone et Ekallatum. Mais la situation a changé en 1964 avec la publication de l'itinéraire de Yale par William Hallow. Ce texte contenait en effet ce que Hallow a qualifié lui-même de « surprise exceptionnelle », l'indication qu'Ekallatum se trouvait à une étape au nord d'Aşur. Or, il y a exactement 25 kilomètres au nord d'Aşur, un site nommé Tel Haikal, qui semblait à Hallow avoir gardé le nom de l'antique ville. C'est un site qui se trouve sur la rive gauche du Tigre, mais à l'endroit d'un gué sur le fleuve, de sorte qu'on pouvait facilement traverser à cet endroit. Mais par la suite, deux éléments sont apparus. D'abord, le fait qu'il n'y avait pas de niveau paléo-babylonien repérable en surface à Tel Haikal, et d'autre part, le fait que dans les textes, de façon indubitable, Ekallatum se trouvait sur la rive droite du Tigre et pas sur la rive gauche. Il faut aussi signaler que la recherche a mis en évidence l'existence d'une autre ville d'Ekallatum sur le moyen Euphrate supérieur, un peu au nord des Mares. C'est le nom du Tel Munbaka à l'époque paléo-babylonienne. Ça n'a pas d'impact direct sur la recherche d'Ekallatum, mais ça permet d'écarter quelques textes qui posaient problème dans la recherche. Retour au Tigre. L'étape décisive dans la localisation d'Ekallatum a été effectuée par Adelaide Otto et Nele Ziegler en 2022 et leur publication est parue dès l'année d'après. Grâce à de nouvelles images aériennes, elles se sont intéressées à un énorme site installé à 18 km au nord d'Aşur, le Tel Huwaish. Ce site avait été identifié antérieurement avec la ville néo-assyrienne d'Ubassé par Émile Forer en 1920 à la suite de Delitzsch, puis par James Kinney Wilson sur la base d'une indication de David Oates. Mais en 1978, Julian Reed, à la suite de ce qu'avait écrit André lui-même dès 1913, avait montré que situé Ubassé à Tel Huwaish n'était pas possible parce que Ubassé est cité dans les sources comme l'endroit où on trouve du bitume. Or, la source du bitume dans la région, c'est la ville moderne de Kayara qui est beaucoup plus au nord et où aujourd'hui encore de l'asphalte sort du site. Et pourtant, la localisation d'Ubassé à Tel Huwaish a été conservée dans les atlas récents, par exemple sur l'atlas d'Helsinki, que beaucoup consultent comme si c'était la Bible, ce que ça n'est pas. Et vous voyez donc ici Ekallati, qui est une mauvaise forme pour Ekallatum ou Ekallatu, qui est situé encore une fois à Tel Haikal, et vous avez donc Ubassé, qui est localisé en réalité à Tel Huwaish. En réalité, avec sa muraille, que l'on voit très bien par vue aérienne, avec sa ville haute, le site correspond tout à fait à ce qu'on attend d'une grosse capitale au deuxième millénaire. Et la comparaison avec Tel Leilan, Shouba Tenlil, est éloquente. On a affaire à une ville d'importance équivalente. Les deux photos sont ici à la même échelle. Et l'hypothèse de Nello Ziegler et de Adelaide Otto a été confirmée par la fouille par Salem Ahmed d'une tombe qui se trouvait sur l'acropole de Tel Huwaish et qui a été mise en évidence par le ruissellement. Son contenu date clairement du bronze moyen, or cette tombe est située relativement en hauteur sur l'acropole et donc il n'y a pas doute que le niveau élevé de l'acropole n'est pas dû avant tout à des occupations plus récentes. Une prospection a été faite en janvier 2002 par Salem Ahmed et Niccolo Marchetti, qui a montré également des éléments néo-assyriens, ce qui correspond bien à l'histoire des Kalatoum. Il serait évidemment très important de fouiller ce site, mais vous l'avouerez, les circonstances politiques ne sont guère favorables à une telle entreprise dans l'immédiat. Et nous allons maintenant passer de l'archéologie et de la géographie historique à l'histoire proprement dite. Le fait majeur qui caractérise l'histoire d'Achour à la fin du XIXe siècle, c'est sa conquête par Samsi-Adou qui mit fin à la dynastie locale. C'est parce que Samsi-Adou était connu comme roi d'Assyrie qu'au début de la publication des archives royales de Marie, Georges Dossin a mis l'accent sur la période où Marie a été dominée par ce souverain. Le nom de Zimri-Lim ne disait rien à personne. Éditer les lettres de Shamshi-Adou mettait la découverte épigraphique bien plus en valeur. Et sur les 5 premiers volumes de la série des archives royales de Marie, 3 ont été consacrés à Samsi-Adou et ses 2 fils. Et vous remarquez au passage le flou qu'a toujours entretenu Dossin avec cette notion de correspondance qui mélangeait correspondance active et correspondance passive. En réalité, dans ces 3 volumes, pratiquement toutes les lettres étaient adressées à Yasmaradou. Les 2 premiers volumes ayant Shamshi-Adou, comme on disait alors, comme expéditeur, et le volume d'ARM5 étant plus mélangé. Et nous allons voir comment la tradition historiographique a conduit pendant longtemps à considérer Samsi-Adou comme un roi d'Assyrie avant que cette approche soit remise en cause. Et puis ensuite, je vous présenterai ce que nous savons des villes d'Achour et des Kalatoum à l'époque de Samsi-Adou. Jusqu'à une période assez récente, donc, Samsi-Adou a été considéré comme un roi d'Assyrie et un bon indice de cela, c'est le fait que les inscriptions de Samsi-Adou se trouvent dans le tome 1 du recueil des inscriptions royales assyriennes que Grayson a publié en 1987. Et c'est à partir des années du milieu des années 1980 que cette vision a été remise en cause. Le problème majeur vient de la liste royale assyrienne. Et je reprends ici les indications d'une étude de Nello Ziegler dans un recueil qui est encore sous presse. La liste royale assyrienne est connue grâce à des manuscrits rédigés à la fin du deuxième et au début du premier millénaire qui énumèrent les souverains d'Achour depuis les origines. En général, vous avez simplement le nom du roi, sa filiation et la durée de son règne. Mais pour Samsi-Adou, cette liste contient de façon exceptionnelle une entrée bien plus développée. Donc, si on lit à la syrienne, ça donne « Shamshi-Adad, fils d'Ilakab-Kabou, alla à Kardouniach, c'est-à-dire en Babylonie, au temps de Naram-Sin. Pendant l'éponymie d'Ibni-Adou, Shamshi-Adad monta depuis Kardouniach, s'empara des Kalatoum et résida pendant 3 ans à Ekallatoum. Pendant l'éponymie d'Atamarishtar, Shamshi-Adad monta depuis Ekallatoum, chassa du trône Erishum, donc Erishum II, fils de Naram-Sin, et s'empara du trône. Il régna 33 ans. » Alors, grande richesse de détails, mais problème. Ce texte semble en effet reposer sur une tradition corrompue notamment parce que les deux éponymes mentionnés ne correspondent pas à ceux qui sont connus par les documents contemporains. On a bien des éponymes nommés Ibn Yadou, mais aucun d'eux ne peut correspondre chronologiquement à la conquête de Samsi-Adou. Et par ailleurs, l'éponyme de la conquête d'Achour nommé Atamar-Ishtar n'a aucun parallèle dans les listes d'éponymes qui sont maintenant à notre disposition. L'indication d'un règne de 33 ans, en revanche, est prise au sérieux par les chercheurs et donc doit débuter avec la prise d'Achour, et c'est Yigal Bloch qui a proposé d'identifier l'éponyme de la conquête d'Achour, le soi-disant Atamar-Ishtar, avec en fait Amour-Achour. Donc il y aurait eu une erreur. Et cet Amour-Achour, c'est le 33e éponyme avant l'éponyme nommé Tabtsili-Achour en 1776 avant Jésus-Christ, éponyme durant lequel Samsi-Adou mourut. Dans le résumé qu'il a donné pour le colloque qui aura lieu au mois de juin prochain, Denis Lacambre a indiqué qu'il allait reprendre cette question, mais pour l'instant, je n'en sais pas plus, donc nous verrons en juin. Autre élément qui a conduit à considérer Samsi-Adou avant tout comme un roi assyrien, les inscriptions découvertes dans le temple du dieu Achour. Il s'agit d'abord d'un texte bref qu'on a retrouvé sur des briques estampées, Samsi-Adou représentant Ishiakoum d'Achour, fils d'Ila-Kapkabou, bâtisseur du temple d'Achour, et on a même une version encore plus courte, Samsi-Adou, bâtisseur du temple d'Achour, qu'on trouve sur des crapaudines, sur une pierre précieuse et sur de nombreuses autres briques estampées. André a aussi découvert dans le temple d'Achour 9 blocs en calcaire qui portent le même texte, commémorant cette fois la construction d'un temple pour le dieu Enlil. L'inscription commence par une titulature et on lit ensuite « Le temple du dieu Enlil, qu'Erishoum, fils d'Ilushuma, avait fait construire, était tombé en ruine et je l'ai abandonné. J'ai construit le temple d'Enlil, mon seigneur, l'estrade redoutable, la grande chapelle, le siège du dieu Enlil, mon seigneur, qui ont été méticuleusement réalisés par les maçons de ma ville d'Achour. J'ai couvert le temple de poutres de cèdre, j'ai érigé dans les salles des portes de cèdre ornées d'étoiles d'argent et d'or. » Et l'inscription fait ensuite allusion aux dépôts de fondation qui ont été aménagés et aux rites alors accomplis. Sous les murs du temple, j'ai placé de l'argent, de l'or, du lapis-lazuli et de la cornaline, donc toute une série de métaux et de pierres précieuses. J'ai mélangé à la chaux de la résine de cèdre, la meilleure huile, du miel et du gui. J'ai méticuleusement construit le temple du dieu Enlil, mon seigneur, et je l'ai appelé Eamkurkura, le temple, taureau sauvage des pays, temple du dieu Enlil, mon seigneur, au sein de ma ville, Achour. Et l'inscription se poursuit par un tarif qui donne le montant de grains de laine et d'huile qu'on pouvait alors acheter avec un sicle d'argent. Puis vient un rappel historique qui évoque le tribut reçu des rois du Toukriche et du Haut-Pays, ainsi que l'érection de stèles à son nom au Liban, au bord de la Méditerranée. Nous avons vu cela au début de l'année. Et le texte continue par une demande. Le jour où un roi futur verra ce temple en ruine, eh bien, il devra le restaurer et y replacer cette inscription. Et au cas où ce vœu ne serait pas respecté, eh bien, il y a toute une série de malédictions qui sont écrites. C'est donc un texte qui est d'un style très babylonien, et d'abord par sa langue, qui est babylonienne et pas assyrienne. On a aussi la présence de ce tarif qui est caractéristique de la Mésopotamie du Sud à partir des rois de Larsa. Et le problème qu'a posé ce texte, évidemment, c'est la façon dont il y a question du dieu Enlil et non pas du dieu Achour. Or, il n'y a pas de doute qu'on soit dans le temple d'Achour, puisque ces pierres ont été retrouvées in situ et que d'autres inscriptions dans le même bâtiment commémorent Samsi-Adou comme bâtisseur du temple d'Achour. Donc, on a traditionnellement considéré qu'on avait affaire à une sorte de babylonisation de la religion par Samsi Adou, puisque la liste royale assyrienne nous dit que Samsi Adou était monté de Babylonie, avec une assimilation entre Enlil et Achour. Ce qui est un peu gênant quand même, c'est que dans une inscription trouvée cette fois à Ninive, Samsi Adou se présente comme, je cite, « le fort, roi de l'univers, préposé du dieu Enlil, représentant Ishyakum d'Achour, et puis bien-aimé de la déesse Ishtar, puisqu'on est à Ninive. » Et donc ici, les dieux Enlil et Achour sont bel et bien distincts, et on touche ici à notre difficulté de comprendre le polythéisme des religions de l'Antiquité. Dernier élément à examiner, le sceau de Samsi Adou, dont j'ai publié l'inscription en 1984, il a une titulature qui est parfaitement assyrienne. Samsi Adou, bien-aimé du dieu Achour, représentant Ishyakum du dieu Achour, fils d'Ila Kapkabou, eh bien, on peut comparer cette inscription avec celle du sceau du roi paléo-assyrien Sargon, qui est connu. Sargon, représentant Ishyakum du dieu Achour, fils d'Ikunum, lequel était représentant Ishyakum du dieu Achour. La seule différence, vous le voyez, c'est que Ila Kapkabou, le père de Samsi Adou, n'est pas suivi par le titre de représentant du dieu Achour, puisque c'est Samsi Adou qui s'est emparé de la ville. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'iconographie de ce sceau, qui a été publiée en dernier lieu par Julie Patrier, eh bien, représente, n'a rien d'assyrien, c'est une scène de présentation babylonienne très classique, et donc vous voyez ici, une fois de plus, le contraste entre des aspects babyloniens et des aspects assyriens dans le legs de Samsi Adou à Achour. Lors de la 39e rencontre assyriologique internationale qui s'était tenue à Heidelberg en 1992, Jean-Marie Durand et moi-même avons remis en question cette vision de Shamshi Adad Ier, roi d'Assyrie. Comme nous étions en retard dans l'achèvement du manuscrit, notre contribution n'est pas parue dans les actes de ce colloque, mais dans la revue Marie. À vrai dire, dès 1985, dans notre article sur la prise du pouvoir de Zimrilim dans Marie IV, nous avions commenté l'épithète que porte Samsi Adou dans plusieurs textes, celui qui a réuni le pays entre Tigre et Euphrate sur l'ordre d'Achour qu'il aime. Et notre commentaire était le suivant. Une de ces inscriptions indique que Samsi Adou considère comme une unité la région qui est entre les deux fleuves. Il est vraisemblable que Samsi Adou ne se serait pas présenté, comme nous le faisons dans nos manuels, comme un roi d'Assyrie, mais plutôt comme l'homme de la région des deux fleuves. Et depuis 1985, Jean-Marie Durand a forgé ce concept de royaume de Haute-Mésopotamie dans diverses études, et vous pourrez lire très bientôt la contribution de Nele Ziegler à ce sujet dans le volume Archibab 6 qui part cette semaine à l'impression et qui sera certainement disponible au colloque de juin et même sans doute avant. Elle souligne que ce concept n'est nullement un anachronisme. Et elle a rappelé le commentaire de Jean-Marie Durand de 1998. Le royaume des Kalatoum, proprement dit, s'appelait les bords du Tigre, parallèlement à la dénomination du royaume de Marie, qui était les bords de l'Euphrate. Cette double appellation doit donner le sens de l'épithète que s'arroge à deux reprises Samsi Adou, celui qui a attaché ensemble les bords du Tigre et de l'Euphrate, c'est-à-dire, en somme, fondateur du royaume de Haute-Mésopotamie. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que Samsi Adou était vu par ses voisins avant tout comme un roi des Kalatoum. C'est en effet l'un des éléments qui a été très surprenant dans la stèle de Datusha qui a été découverte à Eshnouna par hasard et où figure la mention « Samsi Adou, roi des Kalatoum ». Cette inscription date de la fin de la vie de Samsi Adou et elle est due à son voisin, le roi d'Eshnouna d'Adoucha. C'est donc avant tout de cette manière que Samsi Adou était vu à l'époque. Et pourtant, dans le livre assez récent de Mogens Larsen, un des meilleurs spécialistes actuels du paléo-assyrien, on voit encore Samsiadou, présenté sous le nom de Shamshi-Adad Ier, ce qui le fait implicitement apparaître comme le premier de ce nom dans la lignée des rois d'Assyrie postérieurs. Il est vrai que la rubrique s'intitule « King in Assur » et que la colonne d'à côté indique « Une dynastie amorite contrôle Assur », mais garder l'indication chiffrée « premier » me semble une erreur parce qu'elle conduit à regarder cette époque de manière téléologique. Et ce débat me rappelle ce que nous disait Marie Benabou, assistante de Pierre Goubert, quand j'étais étudiant en licence à la Sorbonne. Il ne faut pas étudier la France du XVIIIe siècle avec la Révolution comme horizon. Il faut étudier le XVIIIe siècle pour lui-même. Eh bien, la même chose vaut pour le XVIIIe siècle avant notre ère. Et je prendrai une autre comparaison. Clovis était roi des Francs, mais sûrement pas roi de France, tout simplement parce que ce que nous appelons la France n'existait pas à cette époque. Eh bien, la même chose vaut pour Samsi-Adou. Ce sont les Assyriens postérieurs qui ont intégré Samsi-Adou de manière rétrospective à l'histoire de leur pays. Lui-même avait recueilli l'héritage des représentants Ishiakoum de Dieu Ashur, mais il prit plus tard le titre de roi de la totalité, à l'image des rois d'Eshnouna, ce que les princes d'Assur n'auraient jamais envisagé de faire. Que sait-on des villes d'Assur et d'Ekalatum sous Samsi-Adou? Eh bien, pour cette question, il faut renvoyer à l'excellente étude que Nele Ziegler avait publiée dans le recueil à la mémoire d'André Parot, le tome 6 de la série des Florilegium Marianum, et qui portait sur le royaume d'Ekalatum et son horizon géopolitique. Ekalatum reste à bien des égards une ville énigmatique, même après avoir été localisée avec une quasi-certitude. Et Nele Ziegler avait commencé son article en posant deux questions. La première, quelle est l'ancienneté de la ville d'Ekalatum? On a un texte qui pourrait faire allusion à un roi local antérieur à Samsi-Adou, appelé Ilimarare, mais c'est bien peu. Il devait y avoir une dynastie locale, puisque la liste royale assyrienne commence par décrire la conquête de la ville par Samsi-Adou de la même manière que, 3 ans plus tard, celle d'Ashur. Et après tout, la distance entre les deux villes est comparable à celle qui sépare Andarig et Al-Arad, comme nous l'avons vu, qui eurent à certains moments des rois distincts. Il faut aussi se demander comment comprendre ce toponyme qui signifie « les palais », étymologie qui est assurée par la graphie qu'on rencontre parfois sous forme idéogrammatique et de Gal-Ria. Dans la mesure où on ne possède pas de référence à Ekalatum avant sa conquête par Samsi-Adou, on pourrait songer à un autre cas de ville renommée, comme nous l'avons vu pour Cherna, devenue Shubat Enlil. Mais là, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Souligner que si on ne trouve aucune mention d'Ekalatum dans les archives des marchands assyriens, ça peut être dû à leur itinéraire qui ne passait pas par cette ville. Donc, l'absence de témoignage n'est pas le témoignage de l'absence. Et par ailleurs, on ne voit aucun toponyme dans les archives paléo-assyriennes dont la localisation approximative pourrait correspondre au tel Rouaïch. La dernière question, c'est de savoir où résidait Samsi-Adou lorsqu'il se trouvait dans la région. Il y avait sûrement au moins un palais à Ekalatum, on le verra pour la période d'Ishmedagan, et puis on doit rappeler l'existence à Ashur de ce que les Allemands ont appelé le Vieux Palais, qui a été fouillé par Paul Maresch et publié par Konrad Preusser et republié par Steven Lundström. La stratigraphie est la suivante. Le niveau le plus récent a des vestiges qui sont attribués à l'empereur néo-assyrien Sennachérib. En dessous, on trouve des restes assez beaux d'un palais construit par Ashur-Natsirpal II. C'est lui qui a fait de Kalru, donc à Nimrud, sa capitale, mais il avait quand même rebâti le palais d'Ashur. Encore en dessous, on a un palais médio-assyrien qui est attribuable à Adad-Nirari Ier. et encore en dessous, un palais plus ancien dont n'ont subsisté que les fondations. Et pour en retrouver un plan aussi complet que possible, eh bien, les Allemands ont ouvert des galeries permettant de retrouver les tranchées de fondation de ce palais qui avaient été en partie directement creusées dans le rocher. Alors, comment dater ce vieux palais ? Eh bien, dans la mesure où on est au niveau des fondations, par définition, très peu d'éléments sont disponibles. Pour des raisons architecturales, André avait daté ce palais de l'époque de Samsiadou, mais il est vraisemblable que, en fait, il est plus ancien. Nous avons déjà vu les éléments qui permettent, en revanche, d'attribuer sûrement à Samsiadou la reconstruction complète du temple du dieu Ashur, alias Enlil. Et nous disposons d'une lettre de Samsiadou à son fils Yasmaradou qui laisse penser qu'il existait une forme de centralisation du culte dans le temple du dieu Ashur, dans la ville d'Ashur. C'est une lettre tout à fait extraordinaire. « Je t'ai fait porter 20 mines d'argent pour sertir ta statue. Les statues qui sont faites ici, ou à Shubat Enlil, on en a antérieurement fait les comptes dans le temple d'Ashur. On en connaît donc, après réalisation, les déficits. Les comptes en sont sains. Qui te voit a de quoi être déprimé. Étant donné que tu ne m'as pas envoyé les tablettes de calcul préliminaires de la statue, de l'œuvre une fois achevée, ni d'effreinte, on a pu en faire les comptes. Présentement, interroge Mashoum et Mashia. Demande-leur toute information sur ce travail. Fais recopier point par point sur un document particulier les tablettes comportant les comptes de l'argent nécessaire à cette statue, tout particulièrement l'argent du sertissage, travail qui se trouvera fixé sur la statue, ainsi que l'argent qui a subi une freinte lors du coulage et du remplissage, soit le compte de l'argent lorsque Radnou aura agencé cette œuvre, produit fini, et fais-le-moi porter. C'est en fonction du document qui la concerne, représentant l'avis de ses prud'hommes et le compte de l'argent nécessité par l'œuvre une fois finie, qui se trouvera fixé à la statue, noté par écrit et déposé dans le temple d'Ashur, qu'il faut livrer au maître d'œuvre de la statue le métal qui est nécessaire au travail fini, qui se trouvera fixé sur la statue. Et on rêverait bien sûr de posséder les pièces de cette comptabilité, mais ça n'est pas le cas. Et je terminerai cette section en rappelant ce que Samsiadou écrivit à une autre occasion à Yasmaradou. Il reprochait à son fils d'avoir commandé la fabrication de nouvelles statues divines sans disposer de ressources suffisantes pour assurer ensuite les offrandes régulières à ces divinités. Et il écrivait ce passage significatif: la ville de Marie est déjà pleine de dieux, et il n'y en a pas qui en soit aussi rempli de divinités comme Marie. Il n'y a que Marie et aussi Ashur pour être pleine de dieux. À la mort de Samsiadou, son empire fut démantelé. Beaucoup de royaumes annexés reprirent leur indépendance. C'est ainsi que le royaume de Marie passa de Yasmaradou à Zimrilim. Mais Ishmedagan, le fils aîné de Samsiadou, réussit à se maintenir sur le trône d'Ekalatoum. Cependant, son importance diminua et à plusieurs reprises, on le voit obligé de se réfugier chez Hammurabi de Babylone. Il faudra un jour écrire une biographie d'Ishmedagan, qui est vraiment un personnage extraordinaire, mais pour l'instant, ce serait prématuré car il reste trop de textes à publier et c'est à quoi Nele Ziegler s'y emploie. Par ailleurs, le détail de l'histoire politique est horriblement compliqué et donc on pourrait facilement passer une année entière à débrouiller tout cela. Je vous renvoie provisoirement à Florilegium Marianum V et à l'esquisse écrite par Nele Ziegler dans le dictionnaire de la civilisation mésopotamienne. Je me limiterai, en terminant aujourd'hui, à trois questions. Le problème historiographique posé par Ishmedagan, les informations que nous avons sur les marchands assyriens sous son règne et les comptes rendus d'audience par des envoyés de Zimrilim auprès d'Ishmedagan. Donc je commencerai une nouvelle fois par une mise en garde méthodologique. Dans notre article de Marie VIII, Jean-Marie Durand et moi-même avions signalé ce qui nous semblait une aberration. le fait que dans la série du projet des inscriptions royales de Mésopotamie de Toronto, le RIM Project, eh bien, Samsiadou était rangé sous la rubrique Ashur, ce qui peut se comprendre, Yasmaradou sous la rubrique Marie, ce qui est juste, mais Ekalatoum n'apparaît nulle part. Alors il est vrai qu'on ne possède aucune inscription d'Ishmedagan, mais les sceaux de serviteurs des rois sont publiés dans les volumes du RIM Project. Or, quand parut le volume RIM 4 en 1990, on connaissait déjà des sceaux de serviteurs d'Ishmedagan découverts à Tel Leilan en 1985, et donc il aurait fallu dans RIM 4 un chapitre sur Ekalatoum. Et au passage, j'attire votre attention sur la tablette L85-148 qui, jusqu'à présent, est passée inaperçue dans la littérature. On a là un sceau qui est ainsi libellé. Ishmedagan, fils aîné du roi, bien-aimé du dieu, et puis le nom n'est pas lisible, Ilumgamil est son serviteur. C'est le seul texte qui prouve explicitement qu'Ishmedagan était bien le fils aîné de Samsiadou. On n'en avait pas de doute, mais il faut quand même remarquer la titulature qu'on trouve sur le sceau d'un de ses serviteurs. Sous Ishmedagan, le commerce des marchands assyriens vers la Cappadoce continua, mais il était moins prospère qu'il ne l'avait été au XIXe siècle. La phase la plus ancienne à Kultepe, c'est le niveau 2, c'est celui qui a livré de loin le plus de textes. La période plus récente est désignée comme le niveau 1B, et nous avons dans les archives de Marie quelques témoignages contemporains de ce niveau. On en a vu lors de notre séance sur la ville de Nahour, et je vais vous en donner aujourd'hui quelques autres. Vous vous rappelez que Yamtsoum était le chef de la garnison mariote à Ilantsura au moment où les Élamites ont envahi la haute Mésopotamie. Eh bien, deux de ces lettres livrent des informations sur le sort des marchands assyriens qui avaient manifestement un comptoir commercial dans la ville de Cherna Shubatenlil. Premier passage, c'est la confusion entre les Élamites et les Eshnounéens qui demeuraient à Cherna, et ils ont chassé les marchands assyriens qui demeurent à Cherna. Quelle phrase, hein ? Ils ont chassé les marchands assyriens qui demeurent à Cherna pour s'exercer. Voilà un beau passage. Que Monseigneur sache cela. Et deuxième nouvelle, cette fois plus rassurante, les marchands assyriens qu'on avait précédemment expulsés sont tous rentrés dans leurs maisons, ce qui montre qu'ils avaient des maisons permanentes. Un peu plus tard, Yamtsoum se retrouva en poste à Karana, et une de ses lettres montre que le chef des marchands d'Assur pouvait avoir une activité diplomatique autonome. Et c'est ainsi qu'il décida un rapprochement avec le roi de Karana, Askouradou. La lettre dit ceci: « D'autre part, j'ai entendu ceci dans mon entourage, le chef des marchands d'Ashur fait entrer un présent Shurubtoum pour Askouradou, et la ville d'Ashur tout entière s'est impatronisée dans Karana même. » Il se trouve par ailleurs que nous possédons à Marie deux lettres du chef des marchands d'Ashur nommé Khabdou Malik, à son homologue Mariotte Idiyatoum. Il y est question d'échange de présents et d'un mariage entre le fils de Khabdou Malik et la fille d'Idiyatoum. Ceux d'entre vous qui étaient là le 3 mars 2025 se rappellent sans doute cette affaire, et pour les autres, eh bien, je vous renvoie à la vidéo du cours correspondant. Je mentionnerai aussi une affaire qui eut lieu dans la deuxième moitié de l'an 12 de Zimrili, mais qui est connue par des lettres d'Idiyatoum, le chef de la garnison mariotte à Andarig. Il y avait une caravane de 300 Assyriens et de 300 ânes qui partit d'Ekalatoum pour Karana. Elle arriva ensuite à Andarig, mais elle fut arrêtée à la Grand Porte, et on voit au passage le filtrage qui s'opérait à l'entrée des villes. Il se trouve que le roi d'Andarig Atamroum était à ce moment-là absent, et donc c'est son épouse, je vous rappelle que c'était Inbatoum, une fille de Zimrilim, qui prit la décision d'arrêter cette caravane. Alors Askouradou, le roi de Karana, protesta vivement. Idi Yatoum voulut s'opposer à ce qu'on laisse la caravane poursuivre sa route, mais la reine lui envoya un message où elle lui disait « Monseigneur, c'est-à-dire le roi Atamroum, son mari, Monseigneur est absent, je crains qu'Ascouradou, avec son impétuosité habituelle, n'écrive à Ishmedagan et que celui-ci provoque du dommage dans le pays. Je dois libérer ces gens. » Donc on voit le soutien diplomatique, voire militaire, dont jouissaient les marchands assyriens de la part du roi des Kalatoum, Ishmedagan. Et pour terminer, voici quelques comptes rendus d'entrevues d'envoyés Mariotte avec Ishmedagan, tantôt à Achour et tantôt à Ekallatoum. Alors, un petit détour par un personnage appelé Meptoum, qui était sous Imrilim, le responsable de toute la région du Souroum, donc la vallée de l'Euphrate en aval de Mari. Eh bien, au nord-est, cette région était prolongée par une steppe qui aboutissait à Ekallatoum et à Achour. Et donc, les lettres de Meptoum contiennent fréquemment des informations sur ces deux villes. En voici une. Le district va bien. J'ai écrit précédemment à Monseigneur que j'ai envoyé mon serviteur Ascoudoum, à qui j'avais affecté des escorteurs, à Achour. Dès son arrivée, on l'introduisit auprès de Lounana, qui était manifestement le ministre d'Ishmedagan chargé d'accueillir les messagers étrangers. Lounana l'ayant interrogé, on l'introduisit auprès du roi, donc Ishmedagan, et le roi l'ayant interrogé, il lui dit ceci, et je laisse tomber la suite, mais le texte nous montre qu'en l'occurrence, Ishmedagan résidait à Achour. Nous possédons également deux lettres par lesquelles Ibalpiel et Boukakoum rendirent compte à Zimrilim d'une mission qu'ils avaient accomplie auprès d'Ishmedagan alors que celui-ci était malade. On est manifestement dans une phase de rapprochement entre les rois de Mari et d'Ekallatoum. Nous sommes arrivés à Achour dans la soirée. Nous avons entendu dire autour de nous qu'Akmoum a vaincu Hardigandi, le roi de Kabra. Voilà ce que nous avons entendu dire autour de nous. Nous sommes arrivés à Ekallatoum et Ishmedagan nous a déclaré « 500 soldats de Gourgouroum ayant razzié et pillé le pays d'Hardigandi, 2000 soldats d'Hardigandi sont sortis à la rescousse, ils ont livré bataille et qu'Akmoum a entrepris de vaincre Hardigandi. Ses principaux serviteurs errent ça et là. À présent, cet homme, à cause de sa défaite, puis il y a une cassure, et il met sa confiance en votre seigneur. Il se défie de ses villes. Voilà ce qu'Ishmedagan a déclaré. » Et la lettre continue. « Ishmedagan est très malade, et conformément aux instructions de notre seigneur, et à aller chez notre seigneur. À présent, dans un ou deux jours, et Moutou Achkour et Lounana monteront pour prendre sa tête et aller chez notre seigneur. Autant que nous avons pu le constater, Ishmedagan ne peut se déplacer, il est très malade. » On voit donc que, quoi qu'empêcher de se déplacer, Ishmedagan se tient très au courant des événements et tient à le montrer. Et comme il ne peut se rendre en personne à Mari, il compte y envoyer son fils, Moutachkour, et son ministre, Lounana. Mais les textes administratifs de Mari ne montrent pas que ce voyage ait finalement eu lieu. Et on a une deuxième missive adressée peu après à Zimrilim par les deux mêmes envoyés. « Depuis le jour où nous étions chez Monseigneur, jusqu'au départ d'Ekallatoum, ça nous a fait un long temps ici. » Selon la missive de notre Seigneur, nous sommes arrivés à Ekallatoum et Ishmedagan était alité. Lorsque nous eûmes essayé l'incantation Cherum, les que nous avions n'étaient pas nombreux, mais selon la mission que notre Seigneur nous avait donnée, et puis là on a une cassure d'une quinzaine de lignes, la lettre reprend, par ailleurs, il, manifestement Ishmedagan, nous avait promis deux belles musiciennes assyriennes, mais jusqu'à présent, il ne nous les a pas données. Ça, c'est l'obsession de l'époque pour les musiciennes, hein. On en a vu beaucoup d'exemples. Et la lettre se termine ainsi. Autre chose, lors des instructions que nous avons reçues avant notre départ, s'exprimant d'abondance, il, c'est-à-dire Ishmedagan, a adressé à notre seigneur, donc Zimrilim, un message comme à son père. Il nous a donné un guide et il a assurément beaucoup parlé avec louange d'Ascouradou, fils de Samouadou, aujourd'hui en prenant connaissance de notre tablette, et puis la fin de la lettre a disparu. Donc on est manifestement dans une phase de rapprochement entre Ishmedagan et Zimrilim, mais qui ne durera pas. Il est temps que je m'arrête pour aujourd'hui et pour cette année 2026-27. Pour cette année plutôt, 2026-27, comme vous le savez peut-être, sera ma dernière année d'enseignement au collège et j'ai prévu de vous parler d'un demi-siècle de recherche assyriologique, 1976-2027, bilan et perspective. D'une certaine façon, je compléterai l'histoire de l'assyriologie que j'ai faite il y a quelques années et rédigée dans mon livre « Enquête de Ninive » qui allait de 1842 jusqu'à 1975. En attendant, je vous donne rendez-vous les 18 et 19 juin prochains pour le colloque qui aura pour thème « Pouvoir et culture écrite en Haute-Mésopotamie au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ » et dont le programme est déjà en ligne sur le site du Collège de France. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité, aussi bien vous qui êtes présents dans cet amphithéâtre Marguerite de Navarre que vous qui regarderez ensuite ce cours en ligne. Et je vous dis donc, rendez-vous en juin, si vous le voulez bien.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.